thème de ce matin, puisque nous arrivons à la fin de l'année 2018, c'est notre dernier dimanche ensemble, un moment au travers duquel on essaie de réfléchir aussi à son vécu, à tout ce qui a pu se passer en 2018. Il y a eu de très très bons moments, il y en a eu d'autres qui étaient moins bons. On fait le bilan, on réfléchit. Puis on se projette vers 2019, cette année qui est à venir, et on se dit, je ne ferai plus les mêmes erreurs, je ne ferai plus les mêmes fautes, je veux grandir. Alors, quelles que soient les saisons de notre vie, il y a la place dans notre vie pour grandir et pour progresser. C'est un petit peu l'objectif de cette matinée, de nous dire, nous ne sommes pas encore arrivés. Le thème de ce matin, c'est bien finir la course. Alors, on va bien finir cette année, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore de la marge pour progresser dans notre vie spirituelle, pour grandir. Il y a encore de la place pour du changement. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, c'est un texte écrit par l'apôtre Paul, mais il est un peu avant sa mort, un moment crucial, et il dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. L'apôtre Paul avait terminé sa course, mais nous sommes encore en route, en marche. Nous sommes encore dans la course et nous ne sommes pas arrivés. Et c'est bon de savoir que Dieu n'en a pas fini, ni avec toi, ni avec moi. Donc, le Seigneur dira, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est il était fidèle toute cette année 2018. Il sera fidèle en 2019 et au-delà si le Seigneur ne revient pas. Au Philippiens, il dira ceci: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Lui est fidèle. Et dans toutes ces ans de notre vie, Dieu peut encore nous parler, Dieu peut encore intervenir, Dieu peut nous confier des responsabilités, Dieu peut nous faire grandir, et il veut nous accompagner dans cette course. Bien finir la course. Je ne sais pas si vous avez des réflexions à cela, comment vous aimeriez terminer votre course. Quel habitant est-ce que vous aimeriez laisser après votre départ? Comment faire pour bien terminer la course? Il y a beaucoup d'ingrédients pour faire une course. Certains d'entre nous sont au départ de la course, d'autres sont à mi-chemin, et certains autres sont un petit peu plus près que d'autres de la ligne d'arrivée. Mais peu importe, il y a encore des choses à faire, il y a encore du service, il y a encore de la prière, il y a encore du témoignage. Nous ne sommes pas arrivés. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients dans une course, mais en tout cas, il me semble qu'il y a une qualité essentielle qui nous est nécessaire. Elle s'appelle la résilience. La résilience. Je vais vous expliquer ce que c'est. La résilience, c'est la capacité de rebondir après avoir subi un choc ou un échec ou une défaite, une déception, une perte, une épreuve. C'est la capacité pour un objet de retrouver sa forme d'origine, ou pour une personne de retrouver sa forme. Par exemple, pour une éponge, elle peut la plier, la tendre, elle a la capacité de reprendre sa forme d'origine. Certains d'entre nous, nous avons été pliés, nous avons été tordus, nous avons été polarisés. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons la possibilité de retrouver notre forme d'origine, et même d'aller au-delà. Le château Pain, le chanteur canadien, dira: celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé et que celui qui n'est jamais tombé lève la main. Non, mais qu'est-ce que c'est? Et on compte tous sur la grâce de Dieu. Je remercie Éric pour le choix de ses chants ce matin, et particulièrement celui de ma femme, lorsque les océans se déchirent. Il n'y a rien. La résilience nous permet de rebondir et de ne pas lâcher. Elle nous permet de persévérer. La résilience, elle se forge au contact des épreuves. Elle se développe à partir des expériences que nous connaissons les uns les autres. La résilience, elle n'est pas réservée aux chrétiens. Mais lorsqu'on est chrétien, on a l'esprit de Dieu en nous. Et la résilience se trouve au manteau, certifié, absolu. Donc, c'est simplement le fruit de l'esprit, à la paix, à la joie, à l'amour, à la bonté, la patience, la générosité, la fidélité qui se trouve augmentée par le fruit de l'esprit qui est en nous. Le Dieu résilient nous donne un peu de lui-même. Il nous résilie et il nous aide à vivre avec courage et avec persévérance. Nous avons parmi nous, dans l'Église de l'Épine, des veufs et des veuves qui sont des témoignages exemplaires de résilience. Nous avons des célibataires qui ont témoignage de résilience. Nous avons des hommes et des femmes qui ont passé par l'épreuve et par le deuil et qui peuvent dire aujourd'hui, pour cette génération et pour Dieu, Dieu a été fidèle. C'était difficile, c'était dur, et c'est encore difficile, c'est douloureux, mais est avec moi. La résilience a plusieurs visages. Elle peut prendre comme nom le courage, l'audace, l'endurance, la persévérance, je l'ai dit. Nous avons parmi nous des personnes handicapées qui peuvent témoigner de la résilience, du courage, de la persévérance, de la ténacité. Les enfants ont besoin de résilience. Les ados ont besoin de résilience. Quand on pense qu'ils passent 5% de leur temps uniquement dans l'église, et 95% à l'extérieur, dans la scolarité et la vie extrascolaire, ils ont besoin de résilience pour faire face à la mentalité de la société d'aujourd'hui. Les aînés ont besoin de résilience pour ne pas se laisser tomber dans le vieillissement. Notre pays a besoin de résilience. Après tout ce que nous vivons ces derniers temps, l'Église a besoin. Nous sommes engagés dans la foi, dans la prière, dans le témoignage, dans les actions. Et nous n'avons pas encore vu tout le résultat de notre investissement. Il nous faut être résilients pour persévérer. On continue à prier, on continue à aimer, à servir, à croire et à oser croire Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 35, nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. » Lui, vous avez besoin de persévérance, un autre mot pour résilience, pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui est promis. Encore bien peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. La résilience, c'est un choix. C'est une décision de notre volonté. Qu'elle soit constante, c'est quelque chose que l'on pratique au quotidien. Je ne lâcherai pas. C'est ce que dit le coureur quand il est sur la piste. Au début, tout va bien. Il y a des moments de creux. Et après, ça passe dans le mental. Je ne pas pour vous, mais un jour où j'ai dit oui au Seigneur, je ne l'ai jamais regretté. Je dis oui au Seigneur. Et dans les moments difficiles, c'est celui qui me tient et qui peut me tenir.
Savez-vous pas que les concurrents dans le stade mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes imposent toutes sortes de privations
Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre le monde. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul fait allusion ici aux Jeux olympiques, aux Jeux de Corinthe. Il y avait toutes sortes de jeux à cette époque-là. Et le vainqueur de cette course, le vainqueur de la lutte, il recevait une couronne de laurier. Et donc il est en train de nous dire, toutes les couronnes que vous pouvez recevoir ne sont rien comparées à la couronne éternelle que Dieu prépare pour nous. Et ça devrait nous motiver pour notre course. Dieu prépare un trésor. Dieu prépare une récompense. Dieu prépare une couronne qui ne se flétrira pas. Les athlètes ont trouvé une couronne de laurier. Et cette couronne de laurier, bien sûr, elle ne durait pas très longtemps. Et il dit que toutes les médailles que nous pourrions recevoir, toutes les coupes, tous les titres, tous les honneurs, toutes les promotions, tout cela est bien partagé. C'est dans la couronne pour les médailles. Mais nous, nous courons pour une couronne éternelle. C'est ta vie, c'est ton éternité, et c'est important de le savoir. Nous sommes engagés dans une course qui dépend de la résilience. Nous voulons courir jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il y a des coureurs ce matin parmi nous? Nous voulons courir jusqu'au bout. Oui, nous voulons courir. Alors l'apôtre dit, je ne cours pas comme à l'aventure. La version littérale dit, je ne cours pas dans toutes les directions au hasard. Alors, quand l'apôtre parle de ces choses, il est environné, vous pouvez voir dans la ville de Corinthe, par exemple, des coureurs qui s'entraînaient dans tous les cours de rue. Il fait allusion aux jeux hippiques, les jeux de Corinthe. Ces jeux, juste pour vous donner un petit peu le contexte, vous allez comprendre, ces jeux avaient lieu tous les deux ans. Comprenez la course, le saut, le lancer de javelot, la boxe, la lutte, la course de char attelée. Il y avait de 1 à 6 chevaux, la Formule 1 de l'époque. Une course d'hommes revêtue d'une armure. Ça devait être intéressant. Et avant les jeux, le compétiteur devait faire un serment et déclarer « Je me suis entraîné depuis plus d'une année et je n'aurai pas recours à la tricherie qui pourrait m'avantager injustement. » C'est une déclaration qu'il devait faire. Et celui qui gagnait la course, voilà, c'est intéressant, celui qui gagnait la course était honoré. Son nom et le nom de sa ville ou de son village étaient annoncés dans le stade. Un défilé majestueux était organisé à son honneur. Il recevait un prix de 500 drachmes, ce qui vaut à peu près le salaire d'une année dans le pays moyen. Il avait accès à toutes les places d'honneur en public. Ses enfants bénéficiaient d'une éducation gratuite, beaucoup plus haut niveau d'études. Toutes ses dettes étaient effacées. Il était exempté du service militaire à vie. Il ne payait plus d'impôts ni de taxes jusqu'à la fin de sa vie. Et là, je sens que certains parmi nous ont envie de s'entraîner. Alors, c'est une motivation. Et Paul fait une comparaison entre ce qui se passait à l'époque et la vie spirituelle. Vous courez pour cette médaille, une médaille qui accorde de la reconnaissance, une médaille qui procure de l'épanouissement, une certaine sécurité. Mais vous, dit-il aux chrétiens, c'est pour une toute autre médaille que vous courez. C'est la médaille de l'éternité, la couronne de Jésus. il y a un épanouissement et une sécurité que personne d'autre ne peut demander, si ce n'est le Seigneur. Sa présence, sa présence, sa présence, qui fait toute la différence dans nos vies. Alors il dit, courez en vue de saisir la couronne de la vie. Courez de manière à remporter. Alors la résilience qui nous permet de gagner la course, qui nous permet d'aller jusqu'au bout, de finir et de bien finir, c'est d'abord une attitude, c'est un état d'esprit. C'est en quelque sorte comme une soif de Dieu. Allez, jusqu'au bout, c'est un désir intérieur. Je cours avec l'intention de réussir ma course. Avec l'intention de réussir ma vie. Non pas seulement de réussir dans la vie, mais de réussir ma vie. Que Dieu a un plan pour moi, Dieu a une voie, Dieu a un chemin pour chacun d'entre nous. Et réussir sa course, c'est dire pour lui, moi je rentre dans ce que tu as prévu pour moi, c'est ma plus grande crainte. Je ne veux pas rater ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Je veux que tu as prévu vraiment pour chacun d'entre nous. Et je veux que tu es seul pour m'accomplir. Un plan, un projet que toi seul est appelé à réaliser. Dieu me réserve une tâche que moi seul, je suis en mesure d'accomplir. Alors, j'ai pu observer en 40 ans de ministère pastoral que certains se sont arrêtés de courir. Certains ne courent plus. Pourquoi? Bien, certains ne courent plus à cause de l'influence de leur passé. Depuis leur enfance, on leur dit « Tu ne vaux rien, tu ne sais rien, tu es incapable, tu n'en voudras pas, tu es nul, tu en as raté. » Et ces choses les ont marquées. Et ce matin, je crois que nous allons vivre un moment où ce qui a été marqué dans ta vie, marqué, Dieu à la capacité, la possibilité de d'enlever tout cela. Moi, je crois au Dieu de miracles. Moi, je crois que Dieu est capable de faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Parce que l'esprit est capable de guérir un cœur, de restaurer une vie, de rétablir une mentalité et de nous accorder de vivre différemment, autrement. Le chrétien n'est pas meilleur que les autres. Mais il est avec lui, il est dans sa vie en présence de Dieu. Il est accompagné, quelqu'un qui le tient par la main, quelqu'un qui le pousse et qui l'accompagne dans la course. À cause de l'influence de notre passé, quel que soit votre arrière-plan, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la manière dont vous avez été écrasé, quelles que soient les paroles blessantes, Dieu vous veut dans le stade. On va monter sur le terrain. Dieu le veut dans le temple. Et il dit, j'ai un plan pour toi. Certains sont arrêtés de courir à cause de culpabilité. Les gens qui pensent qu'ils ne méritent pas d'être heureux, qu'ils ne méritent pas d'avoir du succès, ils ne méritent pas de réussir leur vie, ils ne méritent pas d'avoir un mari, ils ne méritent pas d'avoir une épouse. J'en connais. Quelqu'un qui dira peut-être ce matin, moi j'ai brisé mon couple, moi j'ai échoué avec mes enfants, moi je suis arrêté. Aucun garçon ne voudra de moi, aucune fille ne voudra de moi. Mon score plus financier, mon score clair, quand j'ai tourné le dos à Dieu, je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Alors, je vais vous dire quelque chose. Personne d'entre nous ne dit. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est dû à la grâce de Dieu. Nous sommes tous des grâces. Et si la grâce de Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Dieu sait, nous serions. C'est la grâce de Dieu qui nous est donnée et qui fait de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes pas. Alors je viens tordre le cou à ce bon sens ce matin. Aucun entraînement ne mérite en quoi que ce soit. Nous sommes le résultat, le fruit de la grâce de Dieu dans nos vies. Et il est inévitable de redresser ton front, de relever ta tête, de redresser. Parce que Dieu t'appelle. Tu l'aimes, sa vie. Il te veut. Dans son stade, sur son terrain, refuse la culpabilité. Dieu t'appelle. Mon père a fait des choses horribles quand il était jeune. Il avait été enrôlé de force dans l'armée allemande. Et il m'a jamais raconté ce qu'il avait fait. Mais il m'a dit qu'il avait fait des choses terribles. Et à cause de ça, il ne s'est jamais autorisé à entrer la culpabilité. Toute ma vie, j'ai entendu dire « Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. » Et enfin, ça, c'est sa vie, a donné sa vie au Seigneur. Et j'avais dit « Seigneur, j'aimerais bien avoir un cœur à cœur avec lui, et être rassuré contre son avenir, contre sa destinée éternelle. » Et on a eu un contact très fort, il était sur son lit de mort. Accompagné dans les derniers mètres de la course pour qu'il puisse franchir la ligne d'arrivée. Mais à cause de la culpabilité, il ne s'est jamais donné le droit de mettre les pieds dans une église. Terrible. Peut-être la plus des hommes et des femmes parmi nous ce matin qui se portent indignes. Jésus. Que nous soyons pardonnés et pleinement assurés de son pardon et de la réconciliation avec lui. Pourquoi est-ce que ça a arrêté de courir? À cause de leur théologie. Ils se disent le monde est tellement méchant, le monde est tellement mauvais, regardez toutes les mauvaises nouvelles. Ce qu'on a fait, c'est d'attendre le retour du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Le Seigneur n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. Il a quitté la terre physiquement, mais il ressuscitait. Il n'est jamais parti. Marc 16, 20, les disciples sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Matthieu 18, 20, là où deux ou trois sont assemblés en nom, je suis au milieu d'eux. Acte 11, 21, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent se convertir au Seigneur. Il y a quelques jours, nous chantions ici sur cette estrade Emmanuel. Emmanuel, c'est un des noms de Jésus qui signifie Dieu avec nous. Il ne nous a jamais quittés. Pourquoi certains ont arrêté de courir par peur de l'échec? Vous avez connu un échec, vous avez été marqué, blessé, et vous dites peut-être que vous avez trop souffert, un peu trop mal, je n'ai plus envie de courir. J'arrête la course. Un exemple de modèle de résilience contemporain, c'est Nelson Mandela. Il a été en prison pendant de nombreuses années. Il décrit à la sortie de la prison, il décrit cette phrase, ce propos, il dit « Le seul effet, en fait, c'est d'abandonner, de lâcher ou d'arrêter. Les autres défaites, injustices, tragédies, peuvent servir à nous transformer et nous préparer pour de grandes choses. » Avec l'aide de Dieu, Mandela a su transformer l'adversité en opportunité. Le seul échec, c'est d'abandonner. Le seul échec, c'est d'arrêter de vous battre. Le seul échec, c'est de ne plus prendre de risques, de ne plus essayer. Moi, je n'ai pas peur d'échouer. Ça fait partie de notre programme de formation. On a le droit d'échouer. On a le droit de faire des erreurs. Et un échec, un bon échec, vaut mieux que mille discours. Non? Ah oui? transformation. Moi, j'ai surtout peur de manquer la ligne d'arrivée et de passer à côté de ce que j'ai appris. De finir avec un cœur en place, sec, parce que je suis passé à côté de quelque chose. Pourquoi est-ce que certains ne courent plus à cause d'une mauvaise image de Dieu et puis peut-être aussi une fausse représentation de ce que c'est que la spiritualité? Certains font parfois la promotion de la médiocrité. C'est-à-dire que plus tu es misérable, plus tu es pauvre, plus tu es petit et plus tu es spirituel. Et parfois, sous prétexte de servir Dieu, on fait n'importe quoi. Dans mon génération, lorsque je me suis converti, on disait ceci: je chante faux, mais Dieu entend juste. Vous l'avez peut-être aussi entendu: je chante faux, mais Dieu entend juste. Un peu bizarre, hein, quand même, comme raisonnement. Vous venez participer au groupe de demande, première chose, c'est pour moi de chanter juste. Jouer de l'instrument correctement. Puis avoir aussi une vie piteuse qui sera d'accord avec ce que nous attendons d'un chrétien. Je pense que ça, c'est une mauvaise théologie. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur et de plus cher et de plus précieux. Il nous a donné ce qu'il a. C'est fort. Et je crois qu'il souhaite que je donne aussi le meilleur pour refléter le Dieu que je sais. Un Dieu de qualité qui va entretenir avec chacun d'entre nous une relation de qualité pour pouvoir proposer aussi un service de qualité. À l'époque de l'Ancien Testament, dans l'époque de Malachi, par exemple, les gens en étaient vraiment venus et réduits à offrir n'importe quoi à Dieu. Malachi, au chapitre 1er, verset 6, je vous lis le texte. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me rend? Si je suis maître, où est la crainte qui me dit? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, vous dites en quoi avons-nous suivi, c'est en disant la table du Seigneur est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-le donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc à cette époque-là, on prenait, sortait du troupeau, la bête la plus misérable, et on l'offrait à Dieu. Et les sacrifices qui avaient lieu à ce moment-là étaient une image du grand sacrifice qui allait venir, de Jésus qui avait donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous, mourir pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, son propre fils. Dieu a tout donné au monde, il a tout donné son fils. Pour que quelqu'un croit, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça que représentait ce sacrifice. Mais ces gens-là amenaient des bêtes malades, boiteuses, qui ont tristesse. Ceux qui courent et qui veulent arriver jusqu'au bout de leur course donnent le meilleur. Donc ce matin, c'est une question que je pose. Où est-ce que j'en suis avec mon témoignage? Où est-ce que j'en suis avec mon service? Où est-ce que j'en suis avec le dîme, avec mon offrande? La question que je pose et que je me suis posée, ce n'est pas celle-ci. Est-ce que je suis un jour? Mais est-ce que j'ai donné le meilleur? Est-ce que j'ai fait le meilleur? Est-ce que j'ai donné le meilleur? C'est petit. De réfléchir aussi à cette question. Certains chrétiens se permettent de traiter Dieu comme on n'oserait jamais traiter quelqu'un dans le monde séculier. Si vous arrivez régulièrement en retard à votre travail, un jour, votre patron va vous dire « T'as l'air bien plus occupé par autre chose, je vais t'y bérir. » Je vais t'y bérir, comme ça tu pourras faire ce que tu as fait. Alors, on n'est pas là dans le jugement, parce que certains sont arrivés en retard ce matin, parce qu'il faut quand même le savoir, ils ont travaillé toute la nuit. Ils sortent de leur travail et viennent directement au culte. Donc, il y a quelquefois un peu un décalage. Mais je parle de cette maladie chronique. Depuis des années, vous partez en retard de chez vous pour arriver en retard. Peut-être qu'il faudrait s'attendre. Peut-être. Et puis, on est dans la bienveillance. On est bienveillant. Beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Mais il faut aussi un équilibre. Il faut souvent se dire les uns aux autres, écoute, là, mon frère, ma soeur, peut-être quelque chose qui vous a tendu. Je mets ça sur votre cœur. Vous savez que nous vivons dans une société où les sportifs, les artistes travaillent d'arrache-pied pour offrir des spectacles de qualité, des marques de qualité. Le pasteur Raymond Pierre nous a montré une séquence de Racine la semaine dernière. Avec 25 000 spectateurs supporters dans le stade. Et certains sont venus 2 heures avant le match. Et quel spectacle on peut prendre. L'Église est parfois en retrait par rapport à la qualité. Nous avons un Dieu de qualité. On nous veut avec un service de qualité, avec une vie qui soit conforme. Nous honorons Dieu lorsque nous lui donnons le moyen. Vous savez que l'excellence honore Dieu et inspire les gens. La médiocrité n'a jamais inspiré personne, je ne crois pas. Alors, il y a une différence entre l'excellence. L'excellence, c'est faire le mieux possible. La différence entre l'excellence et le perfectionnisme. À l'époque, on n'est pas pour le perfectionnisme, mais pour l'excellence. Parce qu'un perfectionniste, il est malheureux, il se rend malade, c'est pathologique, là, le perfectionnisme. Il se rend malade parce que ce n'est jamais assez bien. Donc, il est malheureux. Par contre, nous sommes pour l'excellence, nous faisons de notre mieux le mieux possible. Alors, la résilience, c'est une question d'attitude, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de vouloir, une question de soi, désir de résilience, je crois que c'est vraiment c'est important, c'est un bon début. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient réussir, gagner, arriver jusqu'au bout, mais ne s'en donnent pas les moyens. Le pasteur Patrice Martorano, que nous avons reçu il y a quelques semaines, disait ceci, beaucoup de gens aimeraient la bénédiction, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la bénédiction. Et l'apôtre Paul dira courir de manière à remporter le prix, c'est-à-dire courir de manière intentionnelle, courir pour gagner. Pas seulement, comme disait Pierre de Coubertin, quand il parlait des Jeux Olympiques, l'importance de participer. Non, mais pas seulement participer, retourner, on arrive jusqu'au bout. On veut que le Seigneur se glorifie dans chacune de nos vies. Et que nous puissions développer le maximum des dons, des talents, des capacités qu'il nous a donnés. Alors, ce qui amène l'apôtre Paul à dire tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, des sacrifices. Sacrifice, discipline, effort, travail, c'est des mots qu'on aime bien, ça. J'aime bien. No pain, no gain. Sans effort, pas de résultat. Nessun dolore, nessun guadagno. Aron Stianchi, cerca action. Alors, je crois à l'inspiration. Mais je crois aussi à la transpiration. C'est comme ça pour tout. Et en réalité, quand on réfléchit bien, dans la vie, il y a à peu près 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Demandez à tous ceux qui préparent leur cours, tous ceux qui font le service, c'est comme ça. tu n'es pas prêt à faire un effort dans ton couple, ça ne marchera pas. Tu peux prier tant que tu veux pour perdre du poids, si tu ne te disciplines pas, ça ne marchera pas. La résilience, c'est ma foi. Et tu n'apprends pas à te discipliner. Tu seras constamment dominé. Tu seras dominé par tes pensées, par tes pulsions, par tes envies, par la convoitise, par le péché. Il faut toujours avoir l'avancement du royaume de Dieu dans ta vie. Il faut faire des choix. Il faut faire le tri dans les fréquentations, fréquentations de Dieu, fréquentations de personnes. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous tirent vers le bas et il y a des gens qui nous tirent vers le haut. Tout dépend de ce qu'on veut. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai comment tu vas finir ta course. Il y a des personnes qui affaiblissent notre résilience et il y a des personnes qui la stimulent, qui la fortifient. Il y a des personnes qui éteignent notre foi et il y a des personnes qui la nourrissent, qui l'encouragent et qui nous inspirent. Il y a des personnes qui nous font honte et il y a des personnes qui nous aident à honorer. Et c'est pas pour cela que nous recrutons. Moi, j'ai béni Dieu parce que je me suis entouré d'équipes de qualité. Nous avons une équipe pastorale super, avec la ville d'Anne, de Pierre-Samuel, de Jean-Pierre. Nous avons une équipe d'enseignants qui se donne la foi. Et nous faisons un travail de qualité, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous avons un seul pastor de notre façon, avec lequel nous travaillons chaque mois, se retrouve dans Paris. On traite des questions qui concernent la vie de l'Église. On travaille ici sur la vie de l'Église. Je suis content que tu bénis Dieu pour l'équipe de qualité que nous avons. Hébreux 12 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe trop facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur le Jésus. Quand ce qu'on a fait à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas le laisser abattre pendant le découragement. La question c'est que faut-il que je rejette ce matin? Que faut-il que je lâche? Seigneur, je vais marquer mon épreuve. Parce que je veux porter les regards sur Jésus. Il est mon modèle, il est l'exemple parfait. Il est allé jusqu'au bout pour moi et pour toi. Il n'a pas hésité. Et de même, je vais aller jusqu'au bout avec lui. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. C'est un athlète anglais qui s'appelle Derek Redmond. Il a une course, c'était aux Jeux Olympiques de 92, aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et à un moment donné, il est victime d'un claquage à 200 mètres. Il est victime d'un claquage. Il s'est entraîné. Et il a dû arrêter de courir à un moment donné. Puis il se relève. Il dit le stade. C'était la course de sa vie. Il se relève. Il classe sur un pied. Et il va vers la ligne d'arrivée. À un moment donné, il est tellement douloureux. Et c'est son père qui quitte les gradins pour aller le rejoindre dans ce stade. Et ensemble, ils vont vers la ligne d'arrivée. Et ce matin, cette pensée précieuse, c'est que notre Père est avec toi et avec moi. Dans la tête. Alors que nous sommes victimes, comme je le disais tout à l'heure, on nous a pliés, on nous a tordus, on nous a écrasés de toutes parts. Et il y en a un qui se prend à l'anesthésie quand nous écrasons. C'est le diable. Et il va se servir de tout ce qu'il a sous la main pour essayer de nous arrêter dans notre cœur. Alors que nous sommes en proie à toutes sortes de questionnements intérieurs, le Père Céleste est avec nous sur le stade de l'Ustrade et il court avec toi, il court avec moi. Et son but, c'est de nous aider jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il veut te suivre dans les bons moments. À tout compréhensible. Ce matin, nous nous tenons devant le Dieu de Seigneur. Oh Seigneur, quelle patience tu as avec nous. Quelle persévérance. Quelle courage. Oh Seigneur, et ta grâce, elle est infinie pour chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur, avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes amis, je me lève devant toi pour dire que je mets ma main dans la tienne. Et l'objectif, c'est de couvrir jusqu'au bout, de remporter cette victoire que tu proposes et d'accomplir la tâche, le service, le travail que tu me confies. Je te remercie, Seigneur, ensemble, les uns et les autres, pour nous encourager ce matin, pour nous tenir dans ta présence et te dire merci. D'abord, merci pour ta résilience. Merci parce que tu es vainqueur. Tu es le grand vainqueur. Tu as donné ta vie sur la croix et tu es ressuscité. Tu as triomphé majestueusement. Et cette victoire devient aussi notre victoire. Nous devons nous approprier ta victoire et la faire nôtre. Et croire que tu es avec nous, croire que tu nous emmèneras jusqu'au bout de notre trajectoire, et qu'avec toi nous franchirons la ligne de la vie. Et puis, au bout de la terre, tu pourras nous dire c'est bien, bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie et ton maître. Ce matin, Seigneur, je te prie pour les bons, pour les mâles. Je te prie pour nos frères et sœurs célibataires. Je te prie pour ceux qui sont en point à la solitude. Je te prie pour ceux qui ont du mal à terminer le mois. Je te prie, Seigneur, pour les jeunes. Je te prie pour les ados. Je te prie pour les enfants, pour les familles que nous représentons. Pour cet esprit de résilience, bien sûr. Et pour ce monde-même, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont méprisés, écrasés, ceux qui puissent la culpabilité. Ce matin, nous nous redressons. Et nous faisons face à l'adversité en disant que Jésus est plus fort. Oh, je combats ce matin la médiocrité, je combats la culpabilité et je déclare que Jésus est le grand vainqueur, il est notre vainqueur et qu'il a remporté la victoire sur la croix. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci de relever ce matin au milieu de nous. Est-ce qu'on peut-être se lever chacun de nous à notre place et prendre à cœur et nous approprier cette parole. Oui, Seigneur, je veux courir aujourd'hui. Je veux prendre ma place. Oui, Seigneur, je veux te servir dans ce que tu as prévu pour moi. Je veux faire ce travail. Je ne veux pas rester dans la médiocrité, mais je veux faire du mieux possible. Je veux vivre l'excellence avec toi. Seigneur, merci parce que toi, tu es excellent et tu demandes que je fasse aussi de l'excellent. Alors oui, Seigneur, avec mes frères et soeurs, avec mes amis, je me tiens devant toi. Je te dis, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Conduis-moi, conduis-nous, conduis ton Église, conduis le pays. Merci, Seigneur, parce que tu n'en as pas fini. Nous sommes encore dans le stade et nous courons vers le but et nous voulons courir devant nous. À toi, Seigneur, toute la louange et toute la reconnaissance de notre cœur pour notre parcours jusque-là et pour une suite que tu prépares. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Seigneur, nous te remercions pour cette matinée bénie. Seigneur, nous te remercions pour la conduite du Saint-Esprit, pour la direction depuis le début du culte jusqu'à la fin du culte. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous te demandons du vraiment, Seigneur, de raccompagner chacun, de porter les uns les autres dans ce temps de fête aussi, en famille. Je te prie de bénir ce que nous sommes, bénir nos vies, Seigneur, et apprends-nous à aller jusqu'au bout, apprends-nous à aller à combattre le bon combat jusqu'au bout. Merci de ta fidélité, merci parce que chaque jour, tu nous suffis. Oui, tes bontés se renouvellent chaque matin, et on peut le dire avec assurance. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bontés. À ton petit à gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un bon tour à chacun, si vous les uns les autres, et on se dit à très bientôt.